Bonsoir tout le monde, merci d'être venus si nombreux. Nous commençons aujourd'hui à l'heure pile pour une bonne raison, c'est que nous devons évacuer la salle à 20h15 parce qu'il y a une soirée élection américaine dans cet amphithéâtre, une nuit on pourrait dire, élection américaine dans cet amphithéâtre. Je suis heureux de vous accueillir pour la deuxième des conférences publiques de l'ISM de la saison 2016-2017 sur minorité en islam, islam en minorité. Séance consacrée donc au chiisme ce soir avec deux spécialistes du chiisme, Mathieu Terrier qui prendra la parole en premier, puis Michel Boivin, et deux spécialistes de deux courants principaux du chiisme. Je rappelle juste en introduction que le chiisme est donc un courant minoritaire de l'islam qui représente 10 à 15% de la population musulmane dans le monde, mais que c'est le premier courant constitué au sein de l'islam, le terme chiisme venant de Shi'at Ali, le parti de Ali, à la mort du prophète Mohammed. La question s'est posée de savoir qui était le plus apte à hériter de ses pouvoirs et à diriger la communauté des croyants. Et les chiites, Shi'at Ali, étaient partisans que ce soit justement Ali, cousin et gendre du prophète et père de ses petits-enfants. De ce débat sur la succession du prophète est né un courant multiple qui s'est scindé au cours de l'histoire en divers sous-courants. Qui ont développé ces différents courants des doctrines tout à fait originales et spécifiques dont on va avoir probablement un petit aperçu au cours de ces deux conférences. Alors le premier intervenant, Mathieu Terrier, est islamologue, philosophe et islamologue, chargé de recherche au CNRS, au laboratoire d'études sur les monothéismes. Il a soutenu une thèse remarquée en 2015 à l'École pratique des hautes études sous la direction de Mohamed Ali Amir Moezi. Et il a été qualifié aux fonctions de maître de conférence en arabe et en civilisation et langue arabe et en philosophie. Il est chargé de conférence à l'École pratique des hautes études et à l'Université Paris-Ouest La Défense. Il a publié de nombreux articles et ouvrages, en particulier des articles, des publications grand public, ce qui est louable pour un chercheur de cette qualité, et aussi un ouvrage récent publié au CERF qui est tiré de sa thèse, qui est « Histoire de la sagesse et philosophie chiite, l'aimé des cœurs » de Qutbeddin Ashkevari. Michel Boivin est anthropologue, directeur de recherche au CNRS. Il est rattaché au Centre d'études Inde-Asie du Sud de l'EHESS. Il a développé plusieurs axes de recherche, en particulier sur le soufisme et sur l'ère indo-pakistanaise et aussi les communautés sindhi d'Europe et des États-Unis. Il enseigne à l'École des hautes études en sciences sociales à Sciences Po Lyon et il est membre du comité éditorial de plusieurs revues. Il est membre aussi du comité scientifique, du conseil scientifique de l'ISM et du comité de pilotage de l'ISM, il faut le noter. Parmi ces publications, on peut citer trois ouvrages récents publiés en français. L'un dans cette collection, ce n'est pas celui-ci, sur le Pakistan et l'islam, anthropologie d'une république islamique. Publié en 2015, donc c'est la collection Terraèdre, la maison d'édition Terraèdre. Le Que sais-je sur l'histoire de l'Inde, qui a été réédité de nombreuses fois. Et enfin, cet ouvrage chez Kartala, Les Agacans et les Khodja, Islam chimique, chiite et dynamique sociale dans le sous-continent indien, mi-19e, mi-20e, Paris Kartala, en 2013. Alors je laisse sans plus tarder la parole à Mathieu Terrier. On enchaînera les deux conférences et puis on réservera des questions à la fin avant de libérer la salle. Donc je vous le rappelle à 20h15.
Merci, bonsoir. Merci Pascal Burezi, merci à l'ISM, à son personnel pour l'accueil et l'invitation. Ma communication portera donc un... Ma communication portera donc sur le chiisme imamite, appelé aussi duodécimain d'après le nombre 12 canonique de ses imams. Depuis le Moyen-Âge, il est devenu le courant majoritaire du chiisme et du même coup la principale minorité de l'islam. Mais avant de prendre l'ascendant sur les autres courants, il a longtemps été minoritaire au sein du chiisme même. Cette double position minoritaire-majoritaire, due aux accidents de l'histoire, lui est devenue essentielle. C'est par la dialectique de ses relations respectives avec la majorité sunnite et les autres branches du chiisme que ce chiisme a construit son identité. Je parlerai de dialectique au sens où cette construction repose sur la contradiction et son dépassement, ce que Hegel appelait le travail du négatif, mais aussi parce que le langage, la discussion ont joué et jouent encore un rôle capital dans la construction de cette identité religieuse. On a souvent écrit l'histoire du chiisme imamite sous un angle purement politique, celui de ses rapports de force avec les pouvoirs sunnites. Je propose de la revoir sous l'angle d'une analyse sémantique, celle des discours et des mots adressés ou destinés aux autres, à la majorité sunnite, comme aux branches rivales du chiisme, mais aussi au soufisme. Les mots par lesquels ce chiisme s'est nommé a été nommé par ses autres et les a nommés à son tour pour se définir lui-même. Je suivrai donc. Voilà, je suivrai donc un plan en 5 questions. Alors, le thème de votre cycle de conférences de cette année, minorité en islam, islam en minorité, m'amène à partir d'une question générale qui ne concerne pas exclusivement le chiisme. Que signifie être minoritaire en islam ? Alors, en l'absence d'un magistère doctrinal unique, reconnu par une majorité de musulmans, il n'existe pas en islam d'orthodoxie au sens établi dans le christianisme par la grande église, ni par conséquent d'hérésie en un sens univoque et figé. Les notions d'orthodoxie, d'hétérodoxie et d'hérésie apparues dans le monde chrétien ne s'appliquent en islam qu'en un sens variable et relatif. Donc je vous prierai de bien vouloir entendre ces mots dans mon discours, toujours accompagné de guillemets. Cela dit, tout comme dans le christianisme, la doctrine majoritaire communément tenue pour orthodoxe en islam s'est formée plus tardivement que celle des courants considérés après coup comme déviants ou hétérodoxes. Être un courant minoritaire en islam, c'est avoir la chance ou la malchance de se voir nommé, répertorié, décrit par les représentants d'une orthodoxie autoproclamée dans un genre littéraire savant que l'on peut appeler hérésiographie, soit le recensement systématique des opinions déviantes. Cette tradition se fonde sur un hadith reconnu une fois n'est pas coutume par toutes les branches de l'islam. « Ma communauté, aurait dit le prophète, Mohammed, se divisera après moi en 73 sectes ou factions. Une seule sera sauvée et les autres seront perdus. » Tous les courants de l'islam, à commencer par le chiisme imamite, se sont référés à ce hadith pour s'identifier à la secte sauvée et vouer les autres courants à la damnation, en composant des ouvrages hérésiographiques. Si les informations fournies par cette littérature sont à prendre avec des pincettes, elles sont précieuses pour connaître les courants doctrinaux minoritaires du début de l'islam, dont la plupart ont disparu depuis. Car être un courant minoritaire en islam signifie aussi, bien sûr, vivre plus ou moins sous la persécution du pouvoir politique majoritaire et de son islam officiel. Sous les dynasties omeyyades et abbassides, donc du 8e siècle au 13e siècle, nombre de ces courants, notamment chiites, ont été à l'origine de soulèvements politiques férocement réprimés. Ils ont parfois conduit à des renversements de pouvoir et des redéfinitions de l'islam officiel. Mais toutes ces expériences, à une exception près, sur laquelle je reviendrai, se sont soldées par un retour en force de l'orthodoxie sunnite. Conséquence possible de cette situation politique, deux tendances communes à nombre de ces courants minoritaires, surtout chiites, sont d'une part le messianisme, l'espérance d'un salut venant d'un rédempteur ou d'un sauveur de la fin des temps, appelé Mahdi ou Qa'im, et d'autre part l'ésotérisme, la discipline du secret, la transmission des doctrines dans des textes volontiers cryptés, deux tendances particulièrement développées dans l'imamisme duodécimain. La majorité de ces courants minoritaires a disparu donc au cours du temps. La synthèse du sunnisme en a absorbé beaucoup, mais les chiites sont restés inassimilables. Nombre d'entre eux se sont éteints sous les persécutions, d'autres ont fini par se fondre dans le courant devenu majoritaire du chiisme du haut des Cimins. Alors si l'islam apparaît aujourd'hui comme scindé et fragmenté, la littérature hérésiographique témoigne qu'il l'était bien davantage dans les premiers siècles, mais que cette pluralité s'est réduite sous les hégémonies successives, ce qui vaut mutatis mutandis pour le chiisme comme minorité de l'islam. Donc je passe à la question, comment le chiisme est-il devenu minoritaire ? Au vu de nos connaissances réduites et hypothétiques sur les débuts de l'islam, il est permis d'avancer que le chiisme n'est pas devenu minoritaire en islam, mais qu'il l'a toujours été. On peut même le qualifier de minorité originelle de l'islam. En effet, Pascal Burezi l'a dit, les sources historiques attestent que le chiisme est le plus ancien courant politico-religieux de l'islam et qu'il est, dès l'origine, le parti des perdants, des opposants aux grandes décisions fondatrices après le prophète, l'établissement du califat et la mise à l'écrit du Coran. C'est largement contre le chiisme minoritaire que le parti majoritaire a construit sa doctrine religieuse et sa pratique politique, devenant ce que l'on appelle le sunnisme. Cette construction n'a pas manqué de déterminer en retour l'évolution doctrinale et sociale du chiisme, ou plutôt des chiismes. Donc qu'est-ce donc que le chiisme à l'origine ? Tous les courants chiites partagent la vénération de Ali ibn Abi Talib, jeune cousin du prophète, époux de sa fille Fatima, père de sa seule descendance mâle. À l'époque du prophète, les partisans de Ali le considéraient comme le seul successeur légitime du prophète à la guidance imama de la communauté en vertu d'une désignation explicite par Mohammed. Les chiites étaient d'abord désignés comme les partisans de Ali, Shi'at Ali. Au début, ce nom de Shi'a, partisan, ne leur était pas exclusif, mais désignait aussi les affiliés d'autres candidats pressentis au califat. Toutefois, l'affiliation à Ali semble avoir eu, dès le début, un caractère particulier, religieux et pas seulement politique. L'idée que la famille du prophète, désignée par le Coran, verset 33 de la sourate 33, comme les gens de la maison, Ahl al-Bayt, était une sainte famille et que Ali et ses descendants étaient élus par Dieu pour succéder au prophète. Si les circonstances de la mort du prophète demeurent obscures, on sait qu'aussitôt après, Ali fut écarté du pouvoir lors d'une réunion tenue en son absence au profit d'Abou Bakr. Les sources chiites les plus anciennes rapportent que Ali ne trouva alors que 4 compagnons loyaux prêts à combattre pour son droit sacré et qu'il ne prêta allégeance à Abou Bakr que plusieurs mois plus tard, dans l'isolement total après la mort de son épouse Fatima, agressée par les hommes d'Abou Bakr et Omar. C'est dire si la cause de Ali devait être minoritaire, c'est dire aussi à quel point cette position minoritaire est assumée par les chiites, comme si la mise en minorité était un signe d'élection divine. Après Abou Bakr, c'est Omar, le grand adversaire de Ali, qui devient calife, puis Othman. Ali n'accède au califat que 25 ans après la mort du prophète, dans un climat de guerre civile consécutif au meurtre de Othman. Il ne parvient pas à faire l'union des musulmans autour de lui et reste un calife minoritaire, en butte à des coalitions d'opposants acharnés issus de l'ancien entourage du prophète. La dernière bataille de son califat, contre le gouverneur de Syrie, Muawiya, qui lui refuse l'allégeance, oppose 2 armées de plusieurs dizaines de milliers de soldats. Couramment qualifiée de discorde, fitna, dans les sources sunnites, elle est désignée comme un djihad, une guerre sainte, par Ali et ses partisans dans les sources chiites. La bataille se solde par un statu quo et une défaite politique de Ali. Il est assassiné 3 ans plus tard, donc en 4661, par l'un de ses anciens partisans, dit Kharijit. Littéralement, les Khalidjites sont ceux qui sont sortis, entendre ceux qui sont sortis du camp des partisans de Ali, parce qu'ils tenaient pour une trahison son attitude de conciliation. Plus tard, les sunnites établiront le dogme historiographique des 4 califes bien guidés, al-Khulafa al-Rashidun, sans doute pour récupérer la figure de Ali et faire oublier les violentes dissensions entre ses partisans et ceux des 3 premiers califes. Au début de l'époque omeyyade, donc après la mort de Ali, Ali était publiquement insulté dans les mosquées, tout comme les 3 premiers califes étaient insultés par les partisans de Ali. Car les chiites n'ont jamais reconnu Abou Bakr, Omar et Othman comme des califes légitimes. Bien plus tôt, il les considère comme des traîtres et des ennemis du vrai. L'acte de les maudire, eux et la plupart des compagnons mécois du prophète, est un rituel prescrit aux chiites sous le nom de Sahaba, l'insulte aux compagnons. Cette pratique répond à une obligation de la foi chiite, appelée tabarru, la dissociation, à l'égard des ennemis de Dieu, complémentaire de l'obligation sacrée de tawalla, la vénération des amis de Dieu, les imams. Le chiisme présente ainsi une perception dualiste de l'histoire et de la création, tenant Ali et ses enfants pour les véritables chefs de l'islam et les guides menant au salut, tenant au contraire les trois premiers califes pour les chefs de l'anti-islam et les guides menant en enfer. Après la mort de Ali, donc en 661, la ferveur des chiites se reporte sur ses deux fils, les petits-fils du prophète, Hassan d'abord et Hussein, deuxième et troisième imam de la lignée des douze. À la mort du calife Mouawiya, Hussein refuse de prêter allégeance à Yazid, le deuxième calife omeyyade. Il entreprend ou accepte de mener un soulèvement pour rétablir les droits de la famille du prophète. Mais l'imam Hussein, ses maigres troupes et plusieurs de ses enfants sont massacrés sans pitié par l'armée omeyyade à Kerbala, en Irak, en 61-680. Cette défaite sanglante aurait dû mettre fin au chiisme. Elle a produit l'effet inverse. Les premières révoltes des repentants de Koufa, se reprochant de n'avoir pas secouru leur imam, éclatent aussitôt après. Leur répression ne fait qu'exacerber le sentiment d'injustice absolue et l'espoir d'une revanche divine chez les chiites. C'est avec le drame de Kerbala qu'émergent deux traits devenus essentiels à l'identité chiite, imamite, la martyrologie et le messianisme. L'événement de Kerbala sépare à jamais le chiisme minoritaire, politiquement vaincu, de l'islam majoritaire, détenteur du pouvoir séculier. En même temps, il divise les chiites entre deux attitudes antinomiques. D'un côté, le choix du soulèvement politique, sous la guidance ou au nom d'un autre fils ou descendant de Ali. C'est le choix des Kaysanides, partisans d'un troisième fils de Ali, qui n'était pas fils de Fatima. C'est au sein des Kaysanides, après la mort de leur champion, qu'apparaît l'idée que l'imam n'est pas mort, mais en occultation, Reiba, et qu'il reviendra un jour à la vie physique pour rétablir la justice sur la terre. Une idée reprise plus tard par les duodécimains. Le choix du militantisme politique est aussi celui des Zaydites, prêts à suivre tout descendant de Ali capable de mener un soulèvement. D'un autre côté, le choix de l'apolitisme, de la spiritualité, de l'herméneutique du Coran, c'est celui de la lignée d'imams qui donnera naissance au chiisme imamite. Donc à partir d'un fils de Hussein rescapé du massacre de Kerbala, Ali ibn Hussein, Zayn al-Abidin, huit imams se succédant de père en fils, guides d'une minorité de plus en plus réduite au gré des scissions, mais chefs religieux suffisamment craints pour être persécutés, emprisonnés, voire empoisonnés par les califes omeyyades puis abbassides. Alors quand le 11e imam Ali ibn Muhammad al-Hadi meurt en 260-874, en résidence surveillée et sans fils héritier, ces chiites sont dans l'expectative et la stupeur. C'est la période dite de la Haigra. La communauté se divise en de nombreux rameaux, elle est menacée d'extinction. L'un de ces courants, minorité dans la minorité, soutient alors qu'un fils caché de l'imam défunt est entré en occultation, Reiba, pour échapper aux persécutions califales, mais communique à ses fidèles par le biais de représentants ou ambassadeurs. Près de 70 ans plus tard, donc en 941, ça n'apparaît pas, donc près de 70 ans plus tard, en 941, le mystérieux 12e imam communique un message déclarant qu'il n'aura plus de représentants, qu'il entre en occultation totale, al-Raibat Tamma, et ne reviendra plus qu'à la fin des temps pour établir la justice sur la terre. C'est alors que le nombre et les noms des imams légitimes sont fixés pour toujours, c'est alors que le chiisme imamite devient nommément duodécimain Isna Asharia. Les ouvrages imamites composés plus tard affirment pourtant que le nombre et les noms des imams étaient connus dès le début par le prophète Mohammed et l'imam Ali, qu'ils n'ont été tenus secrets que par pieuse dissimulation, taqiya, pour protéger la vie des imams, et que chaque imam a été explicitement désigné par son prédécesseur comme son héritier. Ils multiplient, les chiites imamites, aussi les références bibliques à la valeur du nombre 12. Ces dogmes sont bien sûr destinés à réfuter les prétentions des autres courants chiites, vénérant d'autres lignées d'imams, comme à créer une orthodoxie projetée rétrospectivement sur la période originelle. Du point de vue de l'histoire critique, tout ce que l'on peut dire, c'est que le chiisme duodécimain est le dernier mouvement chiite à avoir émergé, mais encore qu'il est le fruit d'une adaptation progressive à des circonstances historiques des plus défavorables. Alors comment ce chiisme minoritaire est-il devenu majoritaire au sein du chiisme ? Eh bien, il le doit d'abord à l'activité de ces savants qui, durant la première occultation et dès le début de la seconde, ont recueilli et mis en ordre les enseignements théologiques des imams, constituant un immense corpus de hadiths qui reste jusqu'à aujourd'hui la matière des études religieuses et la référence des croyants chiites. Mais il le doit aussi à une chance historique qui, ironiquement, s'est offerte au chiisme peu après la disparition effective de son guide. Le gouvernement des vizirs Bouyides à Bagdad, une lignée d'origine iranienne et d'obédience chiite zaydite, exerçant la réalité du pouvoir au nom du califat abbasside sunnite, donc entre 945 et 1055 de l'ère commune. Alors, tout en restant prudents pour ne pas s'aliéner la majorité sunnite, les Bouyides ont permis aux différents courants chiites, comme d'ailleurs au cercle philosophique, de s'épanouir à condition de respecter, eux aussi, une certaine prudence. Le chiisme imamite en a profité pour se consolider comme religion minoritaire savante. À côté des compilateurs des saintes écritures chiites, des juristes rationalistes se sont employés à diriger la pratique des croyants en collaborant au besoin avec le pouvoir officiel. Ce faisant, il s'appropriait des prérogatives réservées à l'origine au seul imam, lequel, étant en occultation, ne pouvait ou ne voulait les exercer. Cette attitude pragmatique, contredisant certains enseignements des imams, a permis au chiisme imamite de se structurer en l'absence de son guide et de subsister comme communauté minoritaire plus ou moins tolérée. La seconde chance historique du chiisme imamite fut une catastrophe pour la majorité du monde musulman, du moins pour ses dirigeants. Il s'agit de l'invasion mongole au XIIIe siècle, décrite dans les sources sunnites comme la fin du monde, saluée dans les sources chiites imamites comme la réalisation de prédictions apocalyptiques. En détruisant l'État ismaélien d'Alamout dans le nord de l'Iran en 1256, les troupes mongoles de Ulegu ont entraîné l'affaiblissement de la principale branche chiite, jusque-là majoritaire, rivale de l'imamisme duodécimain. En abattant dans la foulée l'empire abbasside à Bagdad en 1258, les Mongols ont mis fin à l'hégémonie sunnite sur l'est du monde musulman. Sous la domination des Ilkhans mongols et avant même leur conversion à l'islam, les savants chiites imamites collaborent ouvertement avec le pouvoir. Le philosophe et savant Nasir ed-Din Tusi, passé de l'ismaélisme au chiisme imamite, devient un véritable ministre des affaires religieuses du Nouvel Empire. Un autre théologien imamite, Ibn Taous, justifie une telle collaboration par la formule « Le souverain infidèle et juste est supérieur au souverain musulman et injuste ». Autrement dit, un souverain non musulman vaut souvent mieux qu'un souverain sunnite. Des savants imamites de l'école de Hilla, en Irak, parviennent même à convertir au chiisme le Khan Oljeitsu, qui a régné entre 1304 et 1316, mais l'opposition de la majorité sunnite a amené ce Khan à rétablir l'orthodoxie commune. Le chiisme imamite, sans cesser d'être minoritaire, reste le grand bénéficiaire du règne ilranide mongol. Du côté sunnite, à l'ouest du monde musulman et sous souveraineté mamelouque, on trouve à la même époque, un peu plus tard, le célèbre Ibn Taymiyyah multiplier fatwas et anathèmes contre les écrits des théologiens imamites, contre les activités des ismaéliens, contre les vues et les pratiques hérétiques de la secte Nusayrite en Syrie et contre la mystique moniste d'Ibn Arabi. L'antichisme et l'antisoufisme forcené des épigones modernes d'Ibn Taymiyyah remontent à cette période qui fut à bien des égards une période bénie, une époque bénie pour les hétérodoxies en islam, le chiisme imamite, mais aussi le soufisme et la philosophie dite illuminative. Alors, dans ce processus conduisant de la minorité absolue à la minorité relative ou la majorité relative, par quel discours le chiisme imamite duodécimain s'est-il défini et a-t-il défini les autres ? Le chiisme imamite, minoritaire d'un côté et devenu majoritaire d'un autre, a logiquement développé un double discours à l'intention de la majorité sunnite et des minorités chiites ou soufis. Chacun de ces discours s'est à son tour dédoublé à l'égard du sunnisme, un discours de rapprochement et un autre d'opposition radicale. À l'égard des minorités chiites et du soufisme, un discours de condamnation et un autre de conciliation. Alors, ce double discours ne relève pas d'une duplicité, mais reflète la coexistence permanente de deux tendances dans le chiisme imamite. L'une rationnelle et pragmatique, l'autre ésotérique et apolitique. Deux tendances qui ont toujours contribué ensemble, par-delà leur opposition, à la conservation et à l'évolution du chiisme imamite dans un contexte général de persécution. Donc je distinguerai ici trois situations et trois discours correspondants. Une situation minoritaire et un discours défensif à l'égard du sunnisme. Une situation majoritaire et un discours autoritatif à l'égard de certaines minorités chiites. Et une situation d'équilibre et un discours ambivalent à l'égard du soufisme. Tout d'abord, les premiers partisans de Ali qualifiaient les adversaires de son califat du nom de Nawaseb, littéralement ceux qui sont hostiles. De leur côté, les proto-sunnites ont d'abord affublé les chiites refusant la légitimité des trois premiers califes du sobriquet de Rawafed, littéralement ceux qui refusent, ceux qui rejettent, les contestataires. Un nom censé être infamant, mais que les chiites ont retourné à leur avantage comme un nom honorifique. Selon des hadiths du 5e et du 6e imam, ce nom de Rawafed aurait été une première fois donné par Dieu à des sujets de Pharaon ayant rejeté le pouvoir de celui-ci pour suivre Moïse et Aaron. Tout comme Moïse et Aaron étaient des préfigurations de Mohammed et de Ali, Pharaon et son ministre Aman, mentionné dans le Coran, verset 38 de la sourate 28, étaient des préfigurations d'Abou Bakr et de Omar, les deux premiers califes. Le même nom de Rawafed devait donc être donné une seconde fois par Dieu aux chiites. Cet exemple montre à la fois l'art dialectique des chiites imamites, qui font de leur position de faiblesse un signe d'élection divine, et l'orientation typique de leur exégèse du Coran. En réponse, les juristes et théologiens sunnites ont sacralisé les figures des premiers califes et des compagnons du prophète. Les malédictions prononcées par les chiites à l'égard d'Abou Bakr, Omar et Othman, proférées jusqu'au pèlerinage à la Mecque, déclenchent aujourd'hui, plus que jamais, les foudres des sunnites fondamentalistes, à commencer par les wahhabites, gardiens des lieux saints. Ceux-ci, les wahhabites, tiennent le rejet chiite des compagnons du prophète pour une infidélité, kufr, et cet anathème, ou takfir, a théologiquement valeur d'excommunication et juridiquement de condamnation à mort. Les chiites imamites actuels y répondent en désignant les wahhabites par le sobriquet méprisant de takfiriya, les lanceurs d'anathème. Les premières dénominations, plus anciennes, étaient donc symétriques et fondées sur des questions de personnes. Mais pour se distinguer des sunnites, les chiites imamites ont préféré par la suite employer d'autres couples de notions antinomiques, plus abstraites et religieuses. La secte sauvée versus les sectes perdues. Ceux qui suivent les imams du vrai versus ceux qui suivent les imams menant à l'enfer. De manière plus modérée, certains hadiths des imams qualifient les chiites de croyants, mu'minoun, et les sunnites simplement de musulmans, muslimoun. La foi, iman, est considérée comme l'intérieur ou l'ésotérique de la religion, et la soumission à Dieu, islam, comme son extérieur ou son exotérique. C'est dire que l'imamisme se pense comme le secret ésotérique de l'islam, inaccessible par essence à la majorité. On est là dans un discours à usage interne, adressé par les imams aux disciples chiites, donnant un sens sacré à leur situation minoritaire. Au cours du temps, les imamites ont préféré une antinomie plus subtile et commode pour dire à la fois leur minorité et leur supériorité. Il s'agit de l'opposition courante dans la langue arabe entre l'élite, al-rassa, et le commun, al-amma. L'élite, entendre celle des musulmans, représente évidemment les chiites, Et le commun, soit la masse ou le vulgaire des musulmans, représente bien sûr les sunnites. L'expression al-ramma est hautaine, péjorative, sans être insultante et excommunicatrice. Et cette dichotomie se redouble à l'intérieur du chiisme imamite. Certains savants ou mystiques se considèrent comme l'élite de l'élite et tiennent le grand nombre des croyants pour le commun de l'élite. Elle est aussi appropriée par des minorités chiites, comme les Nusayrites alawites, qui se considèrent, eux, comme l'élite des chiites et désignent les imamites duodécimains comme le commun des chiites. Dans leur longue période d'ultra-minorité, les chiites imamites, afin d'éviter l'anathème pouvant justifier le djihad contre eux, ont réinterprété ou carrément renié certaines de leurs thèses originelles. L'aggiornamento le plus important concerne l'accusation portée contre le pouvoir omeyyade d'avoir censuré et falsifié la lettre du Coran en supprimant les noms des amis et des ennemis de Dieu qui s'y trouvaient. Cette thèse, présente dans les sources chiites les plus anciennes, est reniée catégoriquement à partir du Moyen-Âge par tous les savants imamites faisant autorité, lesquels condamnent comme hérétiques ceux qui ont soutenu ou soutiendraient encore cette thèse. Mais cela n'empêche pas les fondamentalismes sunnites, à commencer par les wahhabites encore, d'accuser sans relâche les chiites de contester l'authenticité et l'intégrité sacro-sainte du Coran. Tout aussi importante, la question du statut et de la nature de l'imam dans le chiisme. Dans le chiisme originel, mais aussi dans le chiisme des philosophes et le chiisme populaire jusqu'à nos jours, l'imam, en particulier Ali, est tenu pour un homme divin, un lieu de manifestation de Dieu sur terre, ou selon les termes d'Henri Corbin, la face de Dieu tournée vers l'homme. Des hadiths attribués à Ali, et transmis par les imams suivants, affirment cette divinité de l'imam. Comme celui où Ali déclare, en paraphrasant la parole de Dieu dans le Coran, verset 3 de la sourate 57, « Je suis le premier et le dernier, je suis l'apparent et le caché », ce qui est dit de Dieu dans le Coran. Nombre de savants imamites modernes préfèrent passer sous silence ou déclarer inauthentique ce genre de hadith. Pour autant, les fondamentalistes sunnites n'ont de cesse d'accuser les chiites de diviniser la personne de leurs imams et de les placer au-dessus du prophète Mohammed. Les théologiens chiites de l'époque médiévale et moderne attribuent volontiers les thèses les plus compromettantes à une minorité hétérodoxe, celle des roulats, littéralement les exagérateurs, ceux qui commettent l'exagération roulou. Le verbe « rala » apparaît dans deux versets coraniques, sourate 4, verset 171, sourate 5, verset 77, au sens de « dépasser les bornes en religion ». Il est dit des gens du livre qui ont élevé le rang de Jésus jusqu'à la divinité, c'est-à-dire des chrétiens. Par analogie, les exagérateurs parmi les chiites sont ceux qui élèvent Ali au rang de la divinité. De longue date, mais surtout depuis la grande occultation du 12e imam, donc en 941, les ouvrages hérésiographiques distinguent entre ces exagérateurs, les roulates, et les imamites duodécimains orthodoxes. Ce terme d'exagérateur a d'abord servi à désigner certains mouvements ultra-minoritaires apparus dans l'entourage des imams chiites. Leurs chefs étaient de proches disciples des imams, désavoués par ceux-ci pour avoir proclamé certaines thèses théologiques comme l'infusion de l'esprit divin dans l'imam, la continuité de la prophétie après Mohammed contre le dogme sunnite du sceau de la prophétie, le retour à la vie de certains amis et ennemis de Dieu avant la fin des temps, la transmigration de certaines âmes mauvaises dans les corps inférieurs, ainsi que des thèses moins spéculatives mais encore plus compromettantes, comme la trahison des compagnons du prophète et la falsification du Coran. Mais en étudiant les recueils de hadith des imams, on s'aperçoit que ces thèses étaient enseignées par les imams eux-mêmes, de manière dispersée, enveloppée, selon un art d'écrire sous la persécution, pour reprendre l'expression de Léo Strauss. En fait, l'exagération condamnée par les imams chez certains de leurs disciples ne résidait pas dans ce qu'ils disaient, mais dans le fait ou l'acte de le dire. Le tort de ces exagérateurs n'était pas de soutenir des doctrines hérétiques, mais de manquer à la discipline du secret appelée taqiyya. La taqiyya chiite, considérée par les sunnites comme une pure hypocrisie, ne consiste pas, sauf en certaines circonstances, à dissimuler son appartenance au chiisme, mais plutôt à cacher à la majorité, celle des sunnites bien sûr, mais aussi parfois celle des chiites, les vérités les plus graves de l'enseignement des imams. Il ne s'agit pas d'une stratégie politique, mais d'une pratique ésotérique. Sa justification, c'est que la majorité du commun, à l'Amma, ignorante et aveuglée par les guides des ténèbres, ne peut pas supporter d'entendre les vérités ésotériques et s'emporte contre ceux qui les professent. Il faut donc taire ou dissimuler les vérités en public pour les transmettre aux seuls initiés. Le principe sous-jacent, d'ailleurs commun à toutes les doctrines ésotériques, c'est que la vérité est toujours comprise par une minorité et rejetée par la majorité. Comme le dit un fameux hadith attribué à plusieurs imams, « Notre enseignement est ardu, seuls peuvent le supporter un prophète envoyé, un ange de la proximité ou un croyant initié dont le cœur a été éprouvé par Dieu pour la foi. » Une position fondamentalement contradictoire avec le principe sunnite du consensus, ijmar, fondé sur un hadith attribué au prophète, ma communauté ne tombera pas d'accord sur une erreur. C'est-à-dire que pour les chiites, imamites, c'est tout à fait le contraire. En somme, la distinction au sein du chiisme imamite entre une majorité de modérés et une minorité d'exagérateurs est en partie artificielle, due surtout à la volonté de certains imamites de se définir comme modérés. Les thèses des exagérateurs ne sont autres que celles des imams du chiisme duodécimain, mais affichées sans voile. Reniées ou réinterprétées par les savants imamites depuis le Moyen-Âge, elles sont conservées dans des mouvements chiites minoritaires, comme celui des Nusayrites, du nom d'un ancien exagérateur, disciple des derniers imams, rebaptisé plus tard Alawite, un nom plus orthodoxe du point de vue chiite. Chez les penseurs chiites imamites, le discours autoritatif contre les roulats, les exagérateurs, vise donc souvent à prévenir le risque d'être soi-même qualifié d'exagérateur. Un bon exemple est Rajab Borsi, penseur chiite imamite du XIVe siècle, qui avait été chassé de la ville chiite irakienne de Hilla pour cause d'exagération et avait élu domicile dans le Khorasan iranien. Son livre intitulé « Les Orients des Lumières » rassemble tous les hadiths affirmant la divinité de Ali, comme celui que j'ai cité plus tôt. Mais dans son commentaire du Coran, il donne une interprétation particulière des deux derniers versets de la première sourate, je vous ai recopié, non, c'est l'autre page, pardon, les deux derniers versets de la première sourate du Coran, « Dirige-nous dans le chemin droit, le chemin de ceux que tu as comblés de bienfaits, non pas le chemin de ceux qui encourent ta colère, ni celui des égarés. » Rajab Borsi identifie ceux qui encourent la colère divine aux sunnites, qui refusent la sainteté de Ali, comme les juifs ont refusé celle du Christ, et il identifie les égarés aux roulates, qui exagèrent la sainteté de Ali, comme les chrétiens l'ont fait avec celle de Jésus. Cet exemple montre que la minorité des exagérateurs chiites est complémentaire de la majorité sunnite, aussi nécessaire que celle-ci, à la construction d'un chiisme modéré, se voulant la voie médiane entre deux doctrines déviantes. Enfin, il faut parler de la relation intime et ambivalente que les chiites duodécimains entretiennent de longue date avec les mystiques soufis. On définit couramment le soufisme comme la mystique du sunnisme prenant une forme confrérique. Mais les maîtres fondateurs du soufisme, au cours des premiers siècles de l'islam, étaient des mystiques individuels, sans organisation sociale, et nombre d'entre eux ont eu des liens avec les imams du chiisme duodécimain, en particulier avec le premier, Ali, le sixième et le huitième. La notion de sainteté, ou alaya, au sens d'une humanité théophanique manifestant Dieu, est une idée commune au chiisme et au soufisme dès l'origine. Mais cette communauté même engendre une tension, car pour les chiites, la sainteté est généalogique ou aristocratique, tandis que pour les soufis, elle peut échoir à tout homme ayant mené à bien les combats et les expériences spirituelles. Le cas de Hallaj, mystique exécuté en 309-922, a poussé cette tension à son paroxysme. Hallaj était proche de mouvements chiites exagérateurs, il semble avoir été dénoncé par des savants chiites imamites, et depuis son exécution, il reste inlassablement condamné par les docteurs chiites de la loi et vénéré par des courants imamites minoritaires. À partir du XIe siècle, la fondation des confréries soufis en Égypte et en Syrie a servi le projet seldjoukide d'homogénéisation doctrinale de la société autour du sunnisme acharite. L'hostilité des savants chiites à l'égard des soufis s'en est accrue. Mais dans l'Orient du monde musulman, suite à l'invasion mongole, le soufisme devient une force spirituelle et sociale indépendante, tant de l'orthodoxie sunnite que des docteurs de la loi imamite. Dans l'Iran des XIVe et XVe siècles, chiisme et soufisme coexistent sur un pied d'égalité, partageant la vénération de la famille du prophète et la mystique spéculative. C'est dans ce contexte que deux discours chiites antinomiques se développent, l'un hostile au soufisme, dénonçant l'immoralité, les innovations doctrinales, les paroles extatiques des mystiques, et l'autre concordiste, œcuménique, voire apologétique du soufisme. C'est ce dernier que l'on trouve chez Haider Amoli, grand penseur de l'Iran mongol du XIVe siècle, disciple chiite du mystique sunnite Ibn Arabi. Dans son livre intitulé « Le compendium des secrets », Haider Amoli se donne pour but d'établir la concorde entre chiites et soufis. Il distingue les véritables chiites, qui sont les imamites duodécimains, des chiites dévoyés que sont les ismaéliens, les zaïdites et les exagérateurs. Et de même, il distingue les véritables soufis, les maîtres des fondations, comme Abou Yazid el-Bastami, des pseudo-soufis professant l'unification avec le divin et la dispense du mystique à l'égard des obligations légales. Les véritables soufis, dit Haider Amoli, sont les chiites initiés, ceux dont les cœurs sont éprouvés pour la foi, auquel fait référence le hadith que j'ai cité. De la même école de pensée est Qutbuddin Ashkevari, un philosophe chiite iranien de l'époque safavide, fin du XVIIe siècle, auteur d'une encyclopédie des sages intitulée « L'aimé des cœurs », où se côtoient les sages grecs, les maîtres soufis et les douze imams. Il fait l'éloge des premiers soufis, mais aussi de Hallaj et d'Ibn Arabi, justifiant leurs vues les plus hétérodoxes du point de vue imamite. Mais lui aussi doit se dissocier du soufisme antinomiste des derviches et qalandar qui menacent l'ordre social. À cette fin, il donne à son tour une interprétation du dernier verset de la première sourate du Coran. Il identifie ceux qui encourent la colère de Dieu à ceux qui abandonnent le respect extérieur de la loi sharia au nom d'une connaissance de la réalité spirituelle, haqiqa, soit les soufis antinomistes, et il identifie les égarés à ceux qui rejettent les vérités spirituelles au nom de la lettre de la loi, c'est-à-dire les juristes chiites, les fuqaha, travaillant alors à séculariser la religion. Donc cet exemple m'amène à ma dernière partie, répondre à la question « Comment le chiisme imamite est-il devenu non seulement la forme majoritaire du chiisme, mais sa forme la plus politisée, voire étatisée ?» Alors ce n'est pas le moment le moins paradoxal et étonnant de l'histoire du chiisme imamite. Le chiisme imamite duodécimain s'est imposé comme une religion d'État et une orthodoxie à la faveur d'une révolution iranienne, non pas en 1979, mais près de 5 siècles plus tôt. Une révolution inspirée par un mouvement chiite minoritaire et hétérodoxe, la Safawiya, un ordre soufi à la direction héréditaire fondé au milieu du XIVe siècle. En 1501, de l'ère commune, son tout jeune cheikh de 14 ans, convaincu d'être le Mahdi, sinon l'incarnation de Dieu, s'empare de la ville iranienne de Tabriz, renverse le royaume des Akhuyunlu, à la tête d'une milice de derviches turkmènes, les Kizilbosh, littéralement les bonnets rouges. Shah Ismail est loin d'être le premier Mahdi autoproclamé de cette période, mais il est le premier dont l'entreprise militaire est couronnée de succès. La doctrine de son ordre relève typiquement de l'exagération chiite, et contre toute attente, il proclame le chiisme imamite duodécimain, religion officielle du royaume, par conviction missionnaire sans doute, autant que par provocation à l'égard de l'empire ottoman voisin, champion de l'orthodoxie sunnite. Pour la première fois, donc, le chiisme imamite devient religion officielle d'un grand État. Mais l'unité de cet État est fragile et la société reste majoritairement sunnite. Pour convertir la société au chiisme imamite, rationaliser et consolider leur pouvoir, les chahs safavides renient leur messianisme et font appel à des savants religieux de grands centres chiites arabes d'Irak et du Jabal Amel dans le sud Liban actuel. Bientôt, ils se forment un véritable clergé chiite sous l'impulsion d'un certain Ali al-Karaki, ministre des Affaires religieuses. Il impose de nombreux changements dans la vie religieuse des chiites. La plus spectaculaire, c'est la prière collective du vendredi derrière un clerc représentant de l'imam. Parce que depuis la grande occultation du 12e imam, l'exécution de cette prescription légale était suspendue pour les chiites. Pareillement, la réforme d'Al-Karaki permet à un grand clerc de déclarer la légitimité d'un djihad défensif qu'il revient au Shah de conduire militairement. Enfin, ce clergé prononce l'anathème contre les soufis et parvient à faire disparaître plusieurs ordres de leur foyer historique. Toutefois, malgré son importance politique, ce chiisme duodécimain réformé, rationalisé, politisé, semble être resté minoritaire au sein de la société iranienne comme au sein du monde chiite, entre l'Iran, l'Irak et le Cham, Syrie-Liban, tout au long de la période safavide, donc 16e et 17e siècle. En témoignent notamment les nombreuses œuvres philosophiques de cette période, j'ai cité Ashkevari, influencé par le soufisme comme par certaines idées des exagérateurs chiites. Il y a loin entre la profession d'orthodoxie d'une caste de savants, même appuyée par le bras séculier de l'État, et la conversion réelle de la majorité des esprits. Je finirai sur une question outrepassant, je dois le dire, mon domaine de compétences historiques. Depuis le XVIIe siècle, cet imamisme duodécimain rationalisé, politisé, est-il vraiment devenu majoritaire dans le monde chiite? Le clergé chiite polycéphale fondé en Iran safavide a fait mieux que survivre à la disparition de cette dynastie. Il s'est imposé comme la principale puissance intellectuelle et sociale sous les Qajars, puis comme un redoutable contre-pouvoir sous les Pahlavis, avant de prendre directement le pouvoir politique en 1979. Mais il faut ici encore se méfier des illusions d'optique. L'imamisme duodécimain institutionnel de notre temps voit se multiplier en son sein les hétérodoxies, avatars modernes des anciennes exagérations, et reste partagé entre l'affirmation de l'identité chiite et le rapprochement avec le sunnisme. La montée en puissance du wahhabisme, autre secte minoritaire devenue majoritaire dans le sunnisme, est un nouveau défi à l'art dialectique des chiites imamites. La construction de leur identité n'a donc pas fini de s'écrire. Je vous remercie.
On passe maintenant à Michel Boivin. Merci beaucoup, Mathieu, pour cette communication.
Oui, donc on va changer à la fois de période et également d'aire géographique, puisque je vais m'intéresser à une autre branche du chiisme. Et comme Mathieu a eu l'occasion de le dire, en fait, ce qu'on appelle le chiisme est évidemment un mouvement diversifié, puisqu'il a mentionné au moins quatre courants principaux, donc le chiisme duodécimain, zaïdite, ismaélien et les roulates, les fameux exagérateurs. Comme vous pouvez le voir dans mon intitulé, donc, la branche du chiisme à laquelle je m'intéresse est une minorité dans la minorité, puisque les chiites eux-mêmes sont minoritaires au sein des musulmans, et les chiites ismaéliens sont minoritaires donc au sein des chiites. Et ces chiites ismaéliens, il faut savoir qu'aujourd'hui, ils sont principalement implantés dans le sous-continent indien. Ce que je voudrais dire également, avant d'entrer dans les détails, c'est que le terme même d'ismaélien, en fait, s'applique à différentes communautés qui partagent partiellement une histoire commune, mais qui se distinguent surtout par le fait qu'ils vénèrent des chefs spirituels différents. Et en fait, le terme d'ismaélien, il a été accaparé principalement par un groupe qui est celui auquel je m'intéresse, donc ça tombe bien, et en fait qui est constitué par les disciples d'un personnage qui est relativement connu sous le nom d'Aga Khan. Donc c'est précisément cette communauté des chiites ismaéliens, Aga Khani, qui sont les disciples de l'Aga Khan, à laquelle je vais m'intéresser. Donc moi, pour situer un peu les problématiques, je suis anthropologue et je m'intéresse à la période contemporaine et plus particulièrement au sous-continent indien, donc sur une période contemporaine qui va de la période coloniale, puisque le sous-continent indien, bien sûr, a été colonisé par les Britanniques, à peu près jusqu'à nos jours. Dans un premier temps, je vais un peu récapituler le schéma chronologique de ces Ismaéliens, de l'histoire ismaélienne, où Mathieu y a déjà fait référence, enfin qui est un schéma, qui est un peu un schéma canonique, c'est le schéma historique officiel de la communauté qui pourrait être discuté, certes. Ensuite, je m'intéresserai donc à la période contemporaine et plus particulièrement à ces personnages, à ces chefs religieux qu'on appelle agakans depuis le début du 19e et à la migration du premier agakan qui vivait donc en Iran, en Perse, vers l'Inde, vers le sous-continent indien. Et je terminerai en développant plus particulièrement la communauté des avis sur la communauté ismaélienne actuelle et sur son chef actuel, donc qui est Aga Khan IV. Donc, oui, le sous-continent indien. Donc, la communauté chiite ismaélienne est issue d'une scission au sein des chiites à l'époque du sixième imam qui s'appelle Jafar Sadiq et qui est mort dans la deuxième moitié du 8e siècle. Et d'après les sources historiques, donc, en fait, il y aurait eu un différend en ce qui concerne la succession de cet imam. Il y aurait eu deux prétendants à l'imamat et une branche aurait suivi l'un de ses fils qui s'appelle Ismaël. Et c'est donc du nom de ce septième imam que vient le terme d'ismaélien qui va les désigner. Pour ce qui suit, bon, en fait, les sources historiques ne sont pas très explicites, hein, mais en général, on divise l'histoire de ces chiites ismaéliens en cinq périodes principales. Bon, il y a une période qui va donc à peu près du 8e siècle jusqu'au 10e siècle et qui est une période assez obscure, mais d'après la tradition ismaélienne actuelle, donc il y aurait eu une succession d'imams qui vivaient dans la clandestinité puisqu'ils étaient persécutés, en tout cas recherchés par différents souverains sunnites. Puis, au début du Xe siècle, commence la deuxième période, et qui est marquée, en fait, par la proclamation d'un califat, et qui est le califat fatimide. Le terme fatimide vient, bien évidemment, de Fatima, qui était donc l'épouse de Ali, le premier imam, et la fille du prophète Muhammad. Donc, en début du Xe siècle, un personnage, donc qui aurait été un imam, proclame publiquement le fait qu'il est imam et en même temps il fonde un état, un empire, donc il est à la fois calife dans le sens de souverain d'un empire et imam, donc chef religieux des chiites et plus particulièrement des chiites ismaéliens. Donc cet empire va connaître un développement important puisqu'en fait il est proclamé à l'origine au Maghreb. Bon, il n'y a pas vraiment de consensus sur le lieu, mais en tout cas dans le Maghreb. Il y a une première implantation dans la Tunisie actuelle et en particulier une ville est fondée par les Fatimides qui s'appelle Mahdiya, qui existe toujours, parce qu'un de ses imams s'est proclamé Mahdi également, d'où le nom de Mahdiya. Et enfin, dans la deuxième moitié du Xe siècle, les Fatimides conquièrent l'Égypte, donc ils s'établissent en Égypte, ils font de l'Égypte le centre de leur empire, et ce sont eux qui fondent le Caire, la ville du Caire. Donc en 969, ce califat fatimide est un rival du califat sunnite abbasside de Bagdad. Bon, il faut savoir que c'est une période où le monde musulman est divisé en trois califats parce qu'il y aura également le califat omeyyade al-Andalus, donc de l'Espagne, le califat fatimide chiite et également le califat abbasside sunnite. Donc qui, lui, était basé à Bagdad. Bon, c'est une période donc de puissance politique et militaire pour les Ismaéliens, mais ceci dit, et plus particulièrement quand ils sont en Égypte, jamais la population sera totalement, ni même majoritairement, ismaélienne. En Égypte, la majorité de la population restera sunnite. Bon, ce qui signifie qu'il n'y a pas eu de tentative de conversion par la force, en tout cas. Les Fatimides dirigent un empire maritime aussi, puisqu'en fait, la Sicile, par exemple, va être sous leur domination pendant plusieurs siècles. Et c'est également les Fatimides qui vont envoyer les premiers émissaires vers le sous-continent indien, parce que, bon, j'ai dit qu'il n'y avait pas de tentative de convertir par la force la population égyptienne en particulier, mais il y avait évidemment toute une organisation de prosélytisme où on essayait de convertir, bon, les musulmans comme les musulmans non chiites comme les non musulmans, au chiisme ismaïlien, mais donc plutôt par la prédication, par différentes techniques de prosélytisme, par différentes stratégies de prosélytisme. Cet empire fatimide même va connaître différentes divisions religieuses au sein même des Ismaéliens. Alors une des plus connues, c'est celle qui va succéder au calife Al-Hakim et qui, après différentes péripéties, donnera naissance à la communauté des Druzes. Donc, bien évidemment, qui existe toujours, en particulier au Liban, en Syrie et en Israël, mais qui a totalement rompu avec le chiisme ismaélien, tout en reconnaissant son origine, son lien avec l'ismaélisme. Il y aura d'autres dissensions, la plupart du temps, elles ont toujours comme origine donc un différent sur la personne du successeur, sur la personne de l'imam qui doit être proclamé. Mais on va pas, c'est pas utile de rentrer dans les détails. Donc en tout cas, pour la branche qui nous intéresse aujourd'hui et celle qui aboutira aux Aga Khan, cette branche va quitter l'Égypte alors que l'empire fatimide existe encore. Bon, l'empire fatimide sera détruit au XIIe siècle par Salahuddin, notre Saladin. Mais cette branche va quitter dès le XIe siècle l'Égypte parce que donc il y a un différend sur la succession et puis ensuite un différend qui concerne exactement précisément la doctrine ismaélienne, et elle va aller s'établir dans le nord de l'Iran actuel, dans des montagnes qui se situent au sud de la mer Caspienne, où là ces chiites ismaéliens vont prendre possession de différentes forteresses et créer un état. Bon, on pourrait discuter du terme, mais on n'est pas là pour ça. Bon, en tout cas, qui était une forme assez originale de l'État. Ce n'était pas un État territorial, en tout cas, où on l'entend aujourd'hui. Cette puissance ismaélienne, bon, qui va être, en tout cas, relativement importante pendant une période, va être détruite par l'invasion mongole. Mathieu y a fait allusion. Donc, au XIIIe siècle, et on voit naître, après la destruction de cette puissance, donc dans le nord de l'Iran, une nouvelle période de l'ismaélisme, alors là encore, qui est assez mal connue en référence aux sources, mais a priori, donc les imams, il y a toujours une continuité de l'imama, a priori les imams s'établissent dans différentes localités de l'Iran, de la Perse, et ils vivent plus ou moins sous le déguisement, entre guillemets, de maître soufi. À la célèbre formule d'Henri Corbin, les Ismaéliens ont pris la rilka, la robe des soufis. Donc, c'est cette nouvelle phase qui commence à partir du XIIIe siècle et qui va, en fait, durer quasiment jusqu'à notre période contemporaine, donc, disons, la fin du XVIIIe, le début du XIXe. Alors, je m'aperçois déjà que j'ai commis un oubli, pas une erreur, impardonnable, parce que j'ai oublié de dire au début ce qui distingue les chiites ismaéliens de tous les autres chiites, et à commencer par les chiites duodécimains, c'est la continuité de l'imama. Bon, donc Mathieu a très bien expliqué que la croyance en cet imam, qui est en fait un être surhumain doté de qualités surnaturelle, surhumaine, c'est vraiment un pilier du chiisme, Et chez les Ismaéliens, eh bien, il y a eu une continuité de l'imamat, c'est-à-dire que des imams se sont succédés. Bon, on a vu la scission avec le 7e, mais après le 7e, le 8e, 9, 10, les duodécimains s'arrêtent à 12, et les Ismaéliens ont continué jusqu'à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ils reconnaissent un imam vivant, un imam manifesté, qui est le 49e depuis le premier Ali, sans interruption, d'après la tradition ismaélienne. Et donc, ce 49e imam, il s'appelle Shah Karim al-Husseini, et il est plus connu sous le nom d'Aga Khan IV. Je vais donc y revenir. Puisque j'en suis arrivé donc à la dernière période de l'histoire de l'ismaélisme, qui est en fait la période moderne, la période contemporaine. Et ces imams ismaéliens réapparaissent dans l'histoire à travers les liens qu'ils ont, en particulier avec les souverains de Perse, les shahs de la Perse, donc du début du 19e siècle. Bon, ils semblent être assez bien vus par le shah, enfin par même plusieurs shahs successifs, par la cour, puisque certains, enfin ça c'est avéré hein, par des sources historiques, c'est avéré qu'ils ont occupé des postes de gouverneurs de province de l'Empire iranien et autres. Et il semble qu'un de ces imams ismaéliens, donc à un moment donné, au début du 19e, ait cherché à se tailler un royaume indépendant au sein de la Perse et peut-être ait profité de l'affaiblissement de la monarchie après une transition un peu difficile, une succession un peu difficile entre deux shahs, deux rois de Perse. Quoi qu'il en soit, cet imam, donc en fait, c'est le 46e imam qui s'appelle Hassan Ali Shah, c'est le personnage à gauche, et en tout cas ses velléités de se tailler un royaume dans le sud-est a priori de la Perse sont un échec. Il est vaincu par le shah et il va être obligé de s'enfuir, de quitter l'Iran, de quitter la Perse. Il se dirige pas vers l'ouest, il se dirige vers l'est, parce qu'il y a déjà eu un certain nombre d'émissaires qu'il a envoyés vers l'est, c'est-à-dire le sous-continent indien, et il sait donc qu'il a des disciples assez nombreux dans cette partie du monde, en tout cas plus nombreux que de l'autre côté vers l'est. Mais ceci dit, tous les disciples de ces imams et des Aga Khan actuels ne sont pas installés ou originaires de ce continent indien. Alors en fait, dans la communauté ismaélienne actuelle, il y a trois groupes ethniques, donc les Indo-Pakistanais, les Arabes, essentiellement en Syrie, mais bon, qui sont beaucoup moins nombreux, et il y a également un autre groupe qui parle des langues iraniennes, que ce soit le persan, mais également établi en Afghanistan et au Tadjikistan. Mais donc, ceux qu'on appelle les Indo-Pakistanais sont largement majoritaires, et on va voir le rôle important qu'ils vont jouer dans l'évolution de la communauté et dans la, si on peut dire, modernisation de la communauté. Donc, j'en reviens en tout cas à cet imam Hassan Ali Shah qui quitte la Perse autour de 1843, l'Iran, et qui se dirige vers le sous-continent indien. Bon, il passe par l'Afghanistan à une époque où les Britanniques s'y intéressaient beaucoup, et il arrive finalement dans la vallée de l'Indus, mais il arrive exactement, coïncidence, sans doute, bien que les historiens savent que les coïncidences n'existent pas, il arrive dans la vallée de l'Indus, dans le sud de la vallée de l'Indus, à la période même où les Britanniques sont en train de se lancer à la conquête de cette région. Puisque les Britanniques étaient dominants en Inde depuis le milieu du XVIIIe siècle, mais la conquête de l'ensemble de ce qui deviendra l'Empire britannique des Indes a pris environ un siècle, justement, entre le milieu du 18e et le milieu du 19e. Et là, on est donc aux environs de 1843. Donc, c'est c'est exactement lorsque les Britanniques se lancent à la conquête. Bon, il y avait deux États dans l'Inde de cette époque, au sud, l'émirat du Sindh, et au nord, le royaume du Pendjab, qui, lui, était dirigé par les Sikhs, par un roi Sikh, Ranjit Singh. Donc, l'Aga Khan arrive, le premier Aga Khan arrive dans cette région à ce moment-là, et a priori, il a aidé les Britanniques dans la conquête du Sindh, donc l'État qui se trouvait au sud, au bord de la mer d'Oman, de l'océan Indien, et qui va être... une région qui va être conquise donc par les Britanniques. Bon, il va rester peu de temps dans cette région, dans le Sindh, à Karachi. En fait, il va très vite se diriger vers Bombay, où il va s'établir. Bon, je n'entre pas dans les détails, mais enfin, il va y rester en fait jusqu'à sa mort en 1882. Donc, ce personnage joue un rôle important, bien sûr, puisque c'est lui d'abord qui transfère l'imamat de la Perse vers l'Inde, pour reprendre le mot de Hamid Algar. Et il va aussi être imam pendant très longtemps. C'est son fils qui lui succède, donc Ali Shah, Aga Khan II, qui lui, en fait, ne va pas être imam longtemps. Il va être imam en quelques années, 4 ans, si ma mémoire est bonne, puisqu'il devient imam en 1882 et il meurt en 1885. Bon, je vois que, merci, je peux compter sur un certain nombre de personnes. Alors, ceci dit, même si son imamat est très court, il est évident, d'après les sources historiques, que son père lui avait délégué des fonctions très importantes. On pourrait peut-être presque parler d'une espèce d'imamat partagé entre le père Hassan Ali Shah et le fils Ali Shah. En tout cas, il lui avait délégué des fonctions imamiennes dans certaines provinces du sous-continent. Bon, c'était surtout l'actuel état du Gujarat en Inde, du Sindh, du Pendjab. Mais on a des éléments qui nous portent à croire qu'il exerçait quasiment des fonctions d'imam par délégation de son père dans ces régions. Donc, c'est lui qui a commencé à essayer de vouloir encadrer la tradition et également, dans une certaine mesure, de l'islamiser. Parce que lorsque les Aga Khan, bon, qui eux étaient iraniens, et on a beaucoup d'éléments qui montrent qu'ils partageaient un grand nombre de croyances, en tout cas de rituels avec les chiites duodécimains, en particulier toutes ces manifestations de deuil qui se déroulent pour commémorer le martyr du petit-fils du prophète, l'imam Hussein à Karbala. Donc, on sait qu'ils étaient imprégnés, d'une certaine manière, de culture religieuse chiite duodécimaine. Mais Ali Shah veut un peu construire une tradition religieuse séparée. Pourquoi ? Parce que lorsque ces Aga Khan arrivent en Inde, certes, ils ont des disciples, mais ces disciples, bon, alors qu'on appelle globalement Khoja, c'est le nom sous lequel ils sont connus, ces disciples, souvent, en fait, vénère plusieurs maîtres spirituels. C'est-à-dire qu'il arrive que les Aga Khan, les imams, sont un maître spirituel, mais ils vont souvent voir également les soufis, les maîtres soufis. Ils peuvent aller voir même des gourous hindous. Donc, les deux premiers Aga Khan, ils vont dépenser une très grande énergie à essayer de prouver à leurs fidèles qu'ils sont les seuls maîtres spirituels importants, et en particulier, ils vont essayer de leur démontrer qu'ils sont les véritables sauveurs, que ce sont eux qui peuvent leur promettre et leur assurer une vie meilleure dans l'au-delà. Alors parfois, ils ont recours à des stratégies même assez coercitives, voire violentes, puisque par exemple, il semble que le deuxième Aga Khan soit allé jusqu'à faire détruire des sanctuaires soufis, en particulier dans la province du Sindh, pour que les Khoja se détournent des autres maîtres spirituels et qu'ils les reconnaissent comme seuls sauveurs potentiels, comme seuls maîtres spirituels. Donc, Alisha meurt en 1885 et c'est son fils qui lui succède, Sultan Mohammed Shah, donc plus connu sous le nom d'Akkad Khan III. Alors lui, c'est un personnage considérable. C'est donc le 48e imam manifesté des chiites ismaéliens. C'est un personnage considérable pour différentes raisons. Bon, la première, c'est qu'il va rester imam très longtemps, de 1885 à 1957, je vous laisse calculer. Mais surtout, il va être imam à une période fondamentale de l'histoire du sous-continent indien, mais même de l'histoire mondiale. Bon, la période de l'industrialisation, de la modernisation, etc. Et donc, c'est lui, finalement, qui va accompagner sa communauté dans toutes ces transformations, dans tous ces bouleversements que vont connaître le sous-continent indien. Alors, ceci dit, il va commencer son imamat en poursuivant ce que son père et son grand-père avaient accompli, c'est-à-dire à essayer de rallier le plus possible de fidèles, à essayer de construire une communauté homogène, uniforme, qui puisse pas partager une seule croyance qui soit centrée sur la personne de l'imam. Parce que lorsque ces Aga Khan arrivent dans le sous-continent indien, en fait, ces Khoja, ces disciples, bon, on a déjà vu qu'ils pouvaient vénérer différents maîtres spirituels simultanément, mais également, ils forment de petites unités dispersées, sans lien entre elles, qui sont relativement indépendantes les unes des autres. Parce qu'en fait, ces Khoja, sur le plan de leur organisation sociale, bien évidemment qu'ils sont organisés selon le système de caste. Et qu'est-ce que c'est une caste dans le sous-continent indien à cette époque? Nous sommes à la fin du 19e siècle. Bon, c'est un groupe qui peut partager une profession, mais qui, en tout cas, est dirigé par un conseil qu'on appelle un panchayat, en général un conseil d'anciens, mais qui est un conseil local à l'échelle d'une ville, d'un quartier ou d'un village. Mais ce conseil, il a des règles. Il a des règles, il énonce des règles en ce qui concerne le mariage, en ce qui concerne ce qu'on a le droit de faire et de ne pas faire, en ce qui concerne les rites, en ce qui concerne les croyances, etc. Donc, c'était ça le système d'organisation des Khoja. Et ces Aga Khan, Sultan Mohammed Shah en particulier, va essayer finalement de briser ce système social lié à la caste pour construire une communauté religieuse, si on utilise le vocabulaire de Max Weber, pour construire une église avec un E majuscule. Et lui également va mettre en œuvre un certain nombre de stratégies pour essayer d'uniformiser cette communauté et finalement la détacher du système de caste. Alors, il va y réussir largement, mais cela n'empêche qu'une partie des Khoja vont rejeter cette allégeance, parce qu'évidemment que ce processus passait par une allégeance stricte et unique à l'imam, à la vénération de l'imam. Donc, une partie va s'en détacher et, en fait, elle va devenir cette communauté chiite duodécimène. Enfin, une toute petite partie va devenir sunnite, mais le reste qui rejette l'allégeance à l'Aga Khan va devenir chiite duodécimène. Alors, il faut dire qu'il y a également des intérêts économiques dans toutes ces négociations, puisque les Khoja sont dominés par des groupes de marchands, par des castes de marchands, et qui vont connaître un très grand développement à partir de la deuxième moitié du 19e siècle. En fait, ils vont suivre l'expansion coloniale britannique à partir du sous-continent indien, d'abord en Afrique orientale, mais ensuite dans d'autres parties du monde. Mais donc, certaines familles de Khoja vont connaître un très grand succès commercial mondial, si j'ose dire, la globalisation avant l'heure. Donc, une partie des Khoja qui rejettent l'allégeance de l'Aga Khan peut s'expliquer par des considérations économiques. Pourquoi? Parce que l'Aga Khan voulait prendre le contrôle de ces groupes, de ces castes et en particulier devenir le propriétaire, bon, pas des biens individuels, mais en tout cas des biens communautaires de la communauté. Et bien évidemment, si on acceptait l'allégeance à l'agacan, on avait un certain nombre de taxes à payer, de dîmes, etc. Pourtant, les agacans, parmi les stratégies qu'ils ont développées pour prendre le contrôle de ces groupes, ils ont eu recours à la justice britannique, alors ce qui était très courant à l'époque. Les Britanniques ont dû à trancher des querelles religieuses dans un très grand nombre de cas. Et pour ce qui concerne les Ismaïliens et les Agacans, il y a eu un procès très célèbre en 1866 qui s'appelle Aga Khan Case, à l'époque du premier Aga Khan. Mais à l'issue de ce procès, donc, le juge britannique a officiellement reconnu que les Khodja étaient tous les disciples de l'Aga Khan et que l'Aga Khan était le propriétaire des biens communautaires de tous les Khodja qui étaient donc ses disciples. Bon, cela ne suffira pas, si j'ose dire, à tous les rallier. Donc, je reviens à ce troisième Aga Khan et aux stratégies qu'il a développées pour uniformiser, homogénéiser sa communauté. Alors, il a un travail considérable parce que j'ai dit que ces Khodja avaient une organisation sociale basée sur la caste, mais aussi ils partagent largement ce que j'appellerais la culture religieuse indienne, qui est elle-même largement influencée par l'hindouisme. Et une grande partie de leurs croyances et de leurs rituels, en fait, sont partagés avec d'autres branches de l'hindouisme. Donc, le troisième Aga Khan, progressivement, essaye de les détacher de cette culture religieuse hindoue, mais aussi, et surtout après qu'une partie des Khodja se soit ralliée au schisme duodécimain, il prend des mesures plus strictes pour empêcher les Khodja de participer au rituel chiite duodécimain, sans quoi ils sont excommuniés. C'est-à-dire qu'ils sont exclus de la communauté. Après la Première Guerre mondiale, cette politique de l'Aga Khan envers sa communauté continue progressivement, mais bien évidemment que la Seconde Guerre mondiale va jouer un rôle important, mais surtout dans le contexte du sous-continent indien, c'est un événement connu sous le nom de partition en 1947, c'est-à-dire le départ des Britanniques et la création de l'Inde et du Pakistan. Le Pakistan étant un État qui a été fondé pour les musulmans de l'Empire britannique des Indes. Donc là, la donne va changer, puisque finalement, le Pakistan représente les musulmans. Bon, l'Aga Khan, ça fait longtemps qu'il vit en Europe. Depuis les années 1920, il vit principalement en Europe, entre le Ritz de Londres et celui de Paris. Et par la suite, au Pakistan, on va quand même faire du Pakistan et de Karachi, dans un premier temps, les quartiers généraux de la communauté. Mais dès la création du Pakistan, il y a des tensions très fortes entre ceux qui veulent un État théocratique basé sur l'islam et les fondateurs du Pakistan qui, paradoxalement, veulent un État plutôt séculariste, bien qu'il soit créé pour les musulmans. Donc, dans ces conditions, l'Aga Khan va essayer de renforcer l'islamité des Ismaïliens. Il va interdire plus ou moins, en tout cas fortement déconseiller, toutes les prières où on parle de divinité hindoue, ce qui était le cas auparavant. Et la dernière étape, c'est autour de 1956, donc en fait un an avant sa mort, où là, il impose une prière en arabe. Parce que jusque-là, les prières étaient dans des langues vernaculaires, mixtes, ou surtout Gujarati, Sindhi. Et là, donc, c'est l'arabe qui est imposé. Bon, il s'éteint donc en 1957, et en fait, il a désigné pour lui succéder son petit-fils, Aga Khan IV, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas son fils, c'est le fils de son fils qui devient le 49e imam. Alors, je vais être très bref pour ce qui concerne ce 49e imam et 4e aga Khan. Bon, lui, donc, il est évidemment, il n'a pas 20 ans quand il devient imam. C'est le premier imam à être né en Occident. Il est né à Genève. Et puisque les autres étaient nés soit dans le sous-continent indien, soit avant en Iran. Et bon, donc, il a eu une formation évidemment différente de ses prédécesseurs. Bon, il a eu une formation en ce qui concerne le chiisme ismaélien, mais il a également fait des études. Bon, il a, sauf erreur de ma part, une licence en histoire de l'islam ou du monde musulman de l'université de Harvard. Donc, c'est évidemment aussi une nouvelle période qui commence. Alors, lui, il va considérablement moderniser sa communauté. Et il va principalement essayer d'uniformiser les croyances parce que, comme je l'ai dit, bon, il y a trois composantes principales chez les chiites ismaéliens du point de vue de la culture religieuse, les indo-pakistanais, les iraniens, enfin afghans et tadjiks et les arabes. Et en fait, ils avaient des cultures religieuses pour ce qui concerne les prières, même les rituels, très différentes. Donc, l'Aga Khan IV, il essaye d'uniformiser ces différentes traditions en se basant sur une forme d'islam que je qualifierais d'essentialisée, mais en tout cas un islam qui est séparé de la culture religieuse. Et donc, ce qui rejoint un peu ce que dit Olivier Roy, mais dans un autre domaine, mais ce qu'il appelle l'islam sans la culture, mais lui, ce n'est pas pour les chiites ismaéliens, bien évidemment, c'est en fait pour les salafistes et autres radicaux de l'islam actuel. Alors, la dernière évolution, en tout cas, de l'imamat, parce que je peux finir en posant une question. C'est finalement aujourd'hui, chez les chiites ismaéliens, qu'est-ce que c'est l'imam ? Quel est le statut de l'imam ? Alors, il n'y a plus aucun lien dans le discours officiel avec une éventuelle divinisation de l'imam, ce qui était le cas chez les ismaéliens auparavant. Donc, officiellement, l'imam, c'est un chef religieux d'une communauté, les chiites ismaéliens, mais qui, principalement, œuvre à des fins de bien-être. On peut dire que son grand-père et prédécesseur, Sultan Mahmed Shah, avait commencé à créer une sorte de welfare state au sein de sa communauté. Donc son petit-fils, l'Aga Khan IV, a continué dans cette direction. Et en fait, aujourd'hui, on peut presque dire qu'il a même déchargé une partie de l'imamat sur une organisation, sur l'institution qui dirige tous les organismes, qu'ils soient caritatifs, dans le domaine de l'art, dans le domaine du développement et autres, et qui s'appelle l'AKDN, l'Aga Khan Development Network. Donc aujourd'hui, c'est cette institution qui a accaparé une partie des fonctions qui étaient auparavant dévolues à l'imam. Je vous remercie.